Jeff vous le dit, ça fait 38 fois que Donald Trump dit ça va être réglé. Et hier, ben, c'est reparti de plus belle avec un hélicoptère qui a été abattu par l'Iran. On en parle avec le chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair, Luc La Liberté, qui est avec nous. Salut Luc!
Ouais, bonjour à toute l'équipe, bon matin!
Ça va-t-il finir à un moment donné, toi?
Grande question, puis j'ai bien aimé que Max nous rappelle les dernières déclarations du président Trump. On a l'impression, mais c'est le scénario optimiste, si on peut encore être optimiste, on a l'impression que dans chaque cas, ce qu'on fait, c'est de se tenir en respect. Quand le président dit « on a détruit finalement la capacité militaire iranienne », les événements des dernières heures fournissent exactement l'information contraire. Il faut rappeler que s'il y a tension encore ce matin, c'est qu'on a pointé en direction de l'Iran lorsqu'on a abattu un hélicoptère Apache, là, il y a quoi, un petit peu moins de 48 heures. Donc, c'est un hélicoptère qui survolait le détroit d'Hormuz, mais c'est le genre d'hélicoptère qu'on utilise également pour s'assurer de maintenir le blocus des côtes iraniennes. Donc, Téhéran ou l'Iran n'a pas revendiqué d'avoir abattu cet hélicoptère, mais c'est bel et bien un drone iranien qui y aurait été utilisé. Alors, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un geste volontaire, une provocation de l'Iran? Toujours est-il que les Américains ont répondu, puis hier soir, sur l'heure du souper, Donald Trump disait « j'ai ordonné des frappes sur l'Iran ». À ces frappes, l'Iran a répondu, et c'est là où le narratif du président ne tient pas le coup, on a répondu en retournant des frappes, mais cette fois-là contre des bases militaires, entre autres au Bahreïn. Donc, ce que l'Iran passe comme message, ouais, que ce soit d'avoir abattu l'hélicoptère Apache ou encore d'avoir frappé deux bases ou des bases des intérêts militaires à l'étranger, c'est peu importe ce que vous dit le président Trump, nous sommes encore en mesure de frapper. Et on le sait, en particulier près du détroit d'Hormuz. Donc, l'impression que ça laisse, c'est Donald Trump ne peut pas dire « je ne suis pas déterminé, on laisse passer ça ». Ce qui me donne espoir, c'est que le président a rappelé, je ne sais pas combien de fois, le fait que l'Iran n'avait pas franchi encore la fameuse ligne rouge fixée par Donald Trump. Et cette ligne rouge, c'est de ne pas tuer de militaires américains. Alors, si vous retournez quelques heures en arrière, le président a répété, je ne le sais pas combien de fois, les deux pilotes de l'hélicoptère Apache, ils ont été sauvés, puis ils reposent dans un état satisfaisant, dans un état stable. Sous-entendu, on n'a pas franchi la ligne rouge. Donc, ce matin, il bombe le torse, c'est typique de Donald Trump, mais en même temps, on peut garder espoir qu'on continue à parler d'un cessez-le-feu, même si ça fait très étrange et paradoxal de parler de cessez-le-feu, alors qu'on se parle par tir interposé jusqu'à tôt ce matin.
Luc La Liberté, tu nous parlais de la base américaine qui est abritée par le Bahreïn qui a été touchée. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que la Jordanie aurait été touchée, oui, base militaire en Jordanie. Et au Koweït, là, l'armée du Koweït, oui, voilà, dit il y a eu des cibles aériennes hostiles avec lesquelles on a dû faire affaire, mais on ne connaît pas, voilà, leur provenance, mais on présume que c'est probablement des gens de l'Iran. C'est quoi la sortie de crise possible? Parce que les Américains ont démontré qu'ils étaient incapables là, d'enlever la menace dans le détroit d'Hormuz. Ils n'ont plus rien à gagner. C'est-tu de tenter de négocier avec Israël pour qu'Israël dise « OK, là, il faut trouver un moyen de sortie, puis au pire, ce sera vous qui porterez le blâme. » Comment on va faire pour sortir de là?
Selon ce qu'on sait, Donald Trump essentiellement était convaincu par Netanyahou de frapper l'Iran. Mais suivre Netanyahou, avoir des amis comme ça, c'est comme avoir des ennemis finalement. L'angle mort de ce conflit-là, si Donald Trump veut en sortir, puis qu'il veut en sortir en présentant ça comme une victoire, ou en présentant ça comme « ben j'ai fait tout ça, mais je vous livrerai pas moins que ce qu'Obama avait obtenu par la négociation », parce qu'Obama, on n'était pas en conflit quand il a négocié l'entente sur le nucléaire iranien. Donc, il devrait normalement être en mesure de contrôler Netanyahou s'il veut sortir de là. Parce que pour l'Iran, mais ça c'est le jeu de négociation de l'Iran, ce sont ses leviers, on ne peut pas laisser Israël frapper. Et Israël vient de faire, dans la ville de Tyr, 11 morts après avoir continué donc des frappes, malgré un cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Donc, on sait que le ton a monté entre les deux hommes, et ce que Donald Trump est en train de confirmer, c'est que il ne peut pas contrôler ou influencer durablement Netanyahou. Est-on capable de s'entendre ensuite avec l'Iran, pour qui, ben c'est très important qu'Israël cesse ses frappes. Les deux cessez-le-feu pour l'Iran, ils sont ensemble. C'est un seul et même dossier pour les négociateurs iraniens. Et derrière tout ça, ben, il y a toujours les deux principaux sujets de conversation. Est-ce que le détroit d'Ormuz est bloqué et est-ce qu'on va y circuler librement comme c'était le cas avant? Ou si l'Iran ne va pas se garder un rôle de contrôleur ou de percepteur, entre guillemets, de taxes? Et l'autre chose, et ça semble plus problématique que jamais, c'est on fait quoi avec l'uranium iranien enrichi? On était à 60% d'enrichissement, à 90% d'uranium enrichi, c'est des capacités pour l'arme nucléaire. Les Américains disent depuis le début, c'est la seule chose que Donald Trump n'a pas contredite depuis le début du conflit, on veut l'uranium enrichi. Si les Iraniens ne le donnent pas, ça veut dire que ou ne contribuent pas, ne s'entendent pas, faut que les Américains envoient des hommes sur le terrain. C'est une opération militaire qui est très complexe, qui est très risquée, qui est très coûteuse. Donc, peu importe ce qu'on nous a rapporté ce matin, les mots rapportés par Max étaient assez clairs. Il n'est pas dans une situation de force dans l'ensemble, à moins d'aller plus loin dans le conflit.
Ben c'est là où je voulais venir. Est-ce que ça serait possible, puis on le souhaite pas aux gens qui sont là-bas, qui n'ont rien à voir
Ben
avec
voilà.
le conflit, là, mais est-ce que c'est possible que Donald Trump dise, vous avez 7 jours pour quitter le pays, puis après ça, je transforme ça en stationnement? Est-ce que ça va être ça la solution ultime de l'oranger en chef?
Je serais particulièrement étonné qu'on fasse ça parce que ça me paraît presque impossible d'y parvenir sans perte de vie du côté américain. Et en politique intérieure, les républicains craignent ce conflit-là plus qu'à peu près n'importe quel dossier. On est en année électorale, le conflit est impopulaire, Donald Trump est impopulaire. Est-ce que de frapper l'Iran puis d'envoyer des hommes sur le terrain pour un président qui avait dit à je ne sais pas combien d'occasions, moi je vais vous épargner les guerres, il n'y en aura pas sous ma présidence. Je pense qu'on y a de quoi ébranler la foi même des partisans de Donald Trump, puis on l'a vu récemment.
Maintenant, j'ai capoté littéralement quand j'ai vu qu'il allait avoir un gala du UFC devant la Maison-Blanche. Moi, quand je vois des images de la Maison-Blanche, puis on voit un peu un plan un peu plus large, je trouve ça de toute beauté. Je me suis dit, mais quelle soirée on aura, un gala du UFC en face de la Maison-Blanche. Pourquoi ça l'énerve tant certains individus aux États-Unis qu'il y ait un gala du UFC devant la Maison-Blanche?
Ça, c'est intéressant comme question. Puis en passant, je déteste pas des matchs de la UFC à l'occasion et je trouvais que c'était un beau bras d'honneur finalement de la part des républicains et de l'administration pour une forme de snobisme aux États-Unis pour ce genre d'événement. C'est vrai que les partisans de Donald Trump apprécient ça, mais ça va au-delà des partisans du président. Donc, ce qui a fait réagir, puis ce qui m'a fait réagir, c'est pas que ce soit des combats de la UFC. Il y a un président américain, Theodore Roosevelt, qui a déjà organisé des combats de boxe dans la
Dans la
Maison-Blanche.
Maison-Blanche, oui.
Voilà, donc c'est pas. On n'imagine pas ça. D'ailleurs, il a perdu la vision dans un œil lors d'un de ces combats-là. Donc, alors, tout ça pour dire, c'est pas l'événement lui-même que je trouve plutôt sympathique. Ce sont des athlètes extraordinaires. Encore une fois, c'est la façon de procéder de Donald Trump. Et on a déposé une poursuite la fin de semaine dernière pour empêcher la tenue de l'événement. C'est en fin de semaine, on est mercredi. Donc, il y a un juge qui a à trancher cette patate chaude et il y a un certain nombre d'arguments qui méritent, je pense, qu'un juge s'attarde au dossier. Dans un premier temps, on a dit, écoutez, le président a bafoué à peu près toutes les règles et c'est un événement privé. C'est la UFC, possession de TKO, c'est Dana White. Donc, on dit, on permet à un individu, à une firme, de s'installer sur des terres publiques. La Maison-Blanche, ce sont des terres qui appartiennent donc aux Américains dans l'ensemble. C'est la maison du peuple. Donc, on dit, on a bafoué toutes les règles pour permettre à un individu de profiter des terres publiques pour un événement privé. Je te fais grâce de tous les arguments parce qu'il y en a sur l'environnement, mais le plus grave ou l'élément le plus grave des accusations, c'est la corruption. C'est qu'on dit, Donald Trump a investi autour de 50 000 $ d'actions dans TKO. Donc, la
Oh!
UFC, c'est TKO. Puis on dit, Dana White va mettre de l'argent dans ses poches. Et Donald Trump aurait vendu, je dis aurait, parce que j'en ai pas la certitude, aurait vendu des places VIP à 1 million de dollars pour permettre à des gens d'assister au combat sur les pelouses de la Maison-Blanche. Donc, on dit, une fois de plus, c'est gros, c'est énorme. C'est le président qui profite de son poste et de la Maison-Blanche pour mettre de l'argent dans les poches de Dana White et mettre de l'argent dans ses propres poches. Donc, je répète, c'est pas que ce soit la UFC qui soit là, c'est pas le type d'événement, c'est la façon de faire. Et je sais pas ce que le juge Mehta, qui est en charge du dossier, va trancher, mais on imagine la pression. On a déjà plus de 600 tonnes d'équipement installés devant la Maison-Blanche. On est à toute fin pratique, prêt pour les combats. Vous répondez quoi si vous êtes le juge? Normalement, c'est la loi qui s'applique. J'aurais un petit frisson qui me parcourt l'échine. Faut être fait fort pour résister à cette pression-là.
Et selon toi, on va-tu avoir un combat, on va-tu avoir une carte de UFC en fin de semaine?
Si j'avais à parier, il semble qu'il n'y ait plus d'Américains maintenant qui réagissent contre les paris, mais si on avait à parier, on va avoir des combats en fin de semaine.
Oh, puis là, c'est pour les fêtes du 250e anniversaire de l'indépendance,
Donc
c'est ça?
voilà, ça c'est un autre, tu vois, quand je te disais, je coupais court aux arguments tout à l'heure, c'est que ce n'est pas pour le 250e, c'est pour la UFC et le 80e anniversaire de naissance de Donald Trump.
Oh, OK. Donc, c'est pas pour le 250e.
Non, voilà. Et ça, dans la poursuite, donc déposée devant les tribunaux, ce sur quoi on doit trancher, normalement, on devrait le faire avant vendredi, il y a cet argument en disant non, non, ce n'est pas pour fêter la nation. On fait ça pour mettre en valeur le. Hey, tiens, information vite, vite. Parce qu'on disait que c'était une organisation privée, le département d'État a signé une entente avec la UFC pour que la UFC soit maintenant ajoutée au personnel diplomatique américain.
Hey,
Écoute,
quand on veut contourner les règles.
non, mais ça ne s'invente pas. Marco Rubio a fait venir Dana White, puis on a dit, écoutez, vous allez nous aider à faire la promotion de ce type de combat à travers le monde et vous devenez un partenaire diplomatique. Ça s'est fait 2 jours après le dépôt de la poursuite. Si vous croyez au hasard,
Ouais.
achetez-vous des billets de loto, c'est fort cette semaine.
Dans le fond, on a la contre-attaque contre l'Iran ultime, Luc, avec ça, le partenaire démocratique, c'est l'UFC, puis c'est les combattants de l'UFC qui vont débarquer sur le
Écoute,
terrain.
si on règle les conflits sur la planète avec des matchs de la UFC, j'embarque.
Ouais, mais là, t'auras plus de job, Luc, si tout est réglé. T'auras plus de job.
Je suis un passionné de sport, on va tenter de développer des compétences transversales.
Et est-ce que Cuba a été laissé de côté cette semaine?
Non, Cuba, la pression, elle est toujours aussi intense, puis j'ai une vague impression que ce qu'on attend, c'est de cueillir le fruit mûr, c'est-à-dire que la crise humanitaire, elle ne s'arrange pas, bien au contraire. Et ce qu'on a laissé entendre du côté de la Maison-Blanche, c'est moins une opération militaire. On s'était déjà parlé du fait que les Américains sont prêts militairement pour une invasion de Cuba. On préfère ne pas avoir à le faire et que le régime plie ou quitte. Mais pour Cuba, la pression, elle est toujours aussi intense.
Est-ce qu'il y a un danger que la population cubaine s'attaque aux autorités qui sont en place? Parce que justement, là, qui n'a plus rien à perdre devient extrêmement dangereux, là.
Voilà, quand on parle de soulèvement, très souvent, ces soulèvements, tu le dis bien, hein, c'est quand on est acculé, quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de gain à espérer. Est-ce qu'on est prêt à défier un régime cubain qui est répressif? Est-ce qu'on serait prêt à confronter, parce qu'en nombre, on est plus nombreux, mais on n'a pas les armes, forcément, mais est-ce qu'on serait rendu à ce point? C'est un rappel que les Américains ont fait au régime quand le directeur de la CIA, entre autres, est allé à la Havane rencontrer le régime cubain. On a dit, faites-en plus pour contrôler votre population. Mais est-ce que cette population-là écoute et est-ce qu'on est encore suffisamment fort pour calmer une répression? Ce n'est pas à exclure comme scénario, malheureusement.
Parce que les soldats cubains ont des frères, ont des sœurs qui ne sont pas militaires, qui tirent le diable par la queue. Ça doit pas être évident non plus pour les gens qui tentent de protéger le régime en haut. J'ai l'impression qu'il va y avoir un soulèvement à un moment donné, là, puis probablement que les militaires vont embarquer là-dedans. Là.
Ben, rappelez-vous, on remonte loin, hein, puis parfois en histoire, ben, il y a des liens qu'on peut faire, même si faut prendre le temps de remettre ça en contexte, mais rappelez-vous comment la révolution cubaine a fini par s'imposer. On a débarqué, c'était une poignée d'hommes qui débarquent avec Che Guevara puis avec Fidel Castro, mais finalement, on va gagner les populations en cours de route et on va faire basculer un régime. Donc, le régime de Batista qui était là avant était particulièrement corrompu. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? Je ne suis pas prêt à vous le dire, mais c'est, je répète, ce n'est pas à exclure. Faut garder ça à l'esprit quand on parle de la situation sur le terrain à Cuba.
Luc, la liberté, c'est toujours un plaisir.
Plaisir partagé. Bonne fin de semaine. Bon match de UFC en fin de semaine.
Merci. Oui, on va regarder ça. Luc La Liberté, qui est chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux, assez facile à retrouver, puis franchement intéressant. Il est 8h48, qu'est-ce qui se passe sur la route?
Capitale Ouest, toujours des ralentissements entre Beau-Royal et Laurentienne. L'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord, toujours pas pire compliqué. Sur le pont de Québec-Nord aussi, des ralentissements. Et la 20 Est vers Taniata, au rouge.
C'est quand même assez particulier, là. Les images, je ne sais pas si tu les as vues, mais c'est carrément en face de la Maison-Blanche. Moi, je trouve
c'est
ça
fou.
De toute beauté. Là,
moi aussi.
Quand il va faire noir puis le combat va être présenté, tu vas voir la Maison-Blanche derrière.
Ouais.
Mais les gens se s'opposent drastiquement à ça.
Oui, mais c'est toujours l'ombre de la corruption derrière ça. Hein? C'est ce que Luc nous expliquait avec les actions de TKO, avec là, finalement, UFC
mais
qui sont rendus
vrai
des
que Trump
diplomates.
Trump aurait vendu chaque billet 1 million puis il aurait encaissé ça. Mais il semble que c'est trop gros.
T'as raison, en effet.
T'sais, le premier à le savoir, là, qu'il devrait pas faire ça parce qu'il pourrait être mis aux arrêts, c'est Donald Trump.
Mm-hmm. Puis tu sais, c'est le fait que on transforme un 250e anniversaire de l'indépendance, on passe ça là-dessus au lieu de dire que c'est le 80e anniversaire de Donald Trump. Mais ça le dit, si on oublie tout ça, ça va être hot en tabarouette.
Ouais, on va écouter ça en fin de semaine. Merci beaucoup.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la